Faut que je recommence? Bien, on recommence. La grâce et la paix nous sont données, en abondance et à tous, auprès et au loin, nous que Dieu appelle à former sa famille universelle. Famille composée d'enfants et d'adultes et de plus âgés, de femmes et d'hommes, nous sommes la famille de Dieu, ses enfants en Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle, il nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent au milieu de nous. Prions. Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce jour et pour cette heure mise à part dans notre vie. Tant d'apaisement et de recueillement, tant d'écoute et de louange. Par l'Esprit Saint, nous apprenons à vivre dans le souffle de ton amour. Au fond de notre âme, tu déposes la foi comme un élan de confiance, mille fois repris au cours de notre vie. La foi comme une confiance toute simple par laquelle, dans la reconnaissance, nous accueillons ta présence. Amen. Nous chantons dans les livrets violets. Réjouissons-nous au Seigneur. Oui.
Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Lui seul est notre délivrance. Maintenant, venons à lui. Il sera toujours notre. Notre reconnaissance.
Louons notre Dieu. Dieu, ma joie, tu es le souffle de ma vie. Tu es la source de mon chant. Tu es le rythme de mon sang. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu, ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu, ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et dans tes mains le monde prend naissance. Tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu, ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi. Tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Loué sois-tu. Et nous chantons au psaume 138 les trois couplets. Psaume 138.
Je te rends grâce.
Avec l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, nous entendons ce que Dieu veut pour nous et qu'il nous donne la force de vivre. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Nous chantons.
Montre-moi, Seigneur, la route. Guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, ô salut, qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour.
Présentons-nous humblement à Dieu dans la prière. Dieu, notre Père, tu nous parles d'amour, mais trop souvent nous confondons ton amour avec notre confort spirituel et nous oublions d'aimer. Tu nous combles de tes dons, mais nous supportons des situations d'injustice et de pauvreté. Nous hésitons à partager. Tu nous offres l'espérance et trop souvent nous sommes résignés, nous n'osons pas nous engager. Pardonne-nous, libère-nous de notre tiédeur, de notre égoïsme et de nos lâchetés. Au nom de Jésus-Christ, amen. Par-delà nos déchirures et nos blessures, le Dieu d'Israël, notre Dieu, nous relève et nous guérit. Il nous appelle à vivre. Son pardon est comme une pluie bienfaisante sur la sécheresse de nos cœurs. Sa bienveillance dépasse nos désobéissances et nos manquements. Sa bénédiction nous renouvelle comme une ondée de printemps. Accueillons le pardon que Dieu pose sur nos vies et chantons notre reconnaissance.
Thank you.
et nous rappelons l'essentiel de notre foi. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu l'amour. Je ne crois pas Dieu lointain, immobile, superbe et indifférent. Je crois au Dieu de l'Alliance venu à nous en Jésus-Christ. Je crois en Dieu souffle de vie, force d'amour et vent de liberté. Je crois que l'Église est formée de pécheurs que Dieu ne cesse de réconcilier. Je crois à la force de l'engagement et du service où s'édifie notre humanité. Je crois que l'amitié comme l'amour sont aussi durables que Dieu. Je crois que nous sommes ensemble responsables les uns des autres. Je crois que Dieu nous accueille avec nos défaillances et qu'il nous aime. Il peut mettre en chacun de nous un cœur nouveau et, avec moi, avec nous, faire un monde nouveau où l'amour demeurera. Je crois à la vie car Dieu est vie. Amen.
Il n'y a sans apparence des pauvres, il est droit, et par leurs souffrances,
Nous ouvrons la Bible pour lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 40 à 52. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ses parents allait chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit: « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en grâce auprès de Dieu et auprès des hommes.
Donc
nous chantons au choral numéro 10, donc les chorales qui sont à la fin du psautier, dans une petite brochure à la fin. Le numéro 10, « Ô Dieu très puissant créateur ». Prions. Ô notre Dieu, nous croyons que ton royaume est caché dans l'Écriture, comme une graine dans la main du semeur. Nous croyons qu'ainsi, cette graine attend la terre labourée de notre cœur pour germer et fleurir, annoncer et rendre manifeste pour ce monde la vérité de ta présence. Accorde-nous la grâce de recevoir l'Écriture, de la ruminer, de la respirer, pour que d'elle jaillisse en nous le fruit de ta parole. Amen.
Dernier dimanche de l'année, un temps où peuvent s'entremêler nos réflexions et méditations sur le temps qui passe, sur la famille aussi et les relations qui s'y nouent, dénouent ou renouent, quelquefois, au gré des événements de nos existences. Au calendrier universel, nous allons passer d'une année à une autre, et cela marque nos imaginaires, au point que c'est l'occasion de fêtes, de réveillons, où s'exprime la nostalgie, dans la conscience de l'éphémère de notre passage sur cette terre, mais aussi dans une certaine excitation et curiosité pour l'inattendu de demain et les fameuses bonnes résolutions dans une ambiance de renouveau espéré. Réfléchir au temps qui passe et précisément quel renouveau pour nous s'y annonce. Réfléchir aussi à la famille comme nous y invite le passage choisi de l'Évangile. Et puisque ce qu'on appelle désormais communément les fêtes de fin d'année sont occasion, dans la mesure du possible, de retrouvailles en famille. Ce récit que nous avons entendu dans l'Évangile selon Luc, sous une apparente simplicité ou banalité, fourmille de pistes de réflexion, si nous nous y laissons surprendre. Jésus, enfant ordinaire, montant avec ses parents et d'autres pèlerins à Jérusalem, comme cela est rituel pour la Pâque. Jésus va s'y révéler extraordinaire, ou au moins posant question, un enfant étonnant. Qui est-il ? Adolescent fugueur ? Adolescent précoce d'une intelligence hors norme ? Fils d'un père autre ? Jésus, vrai enfant des hommes et témoignant d'une nature divine quand il discute d'égal à égal et même plus de manière surprenante avec les enseignants du temple. Nous pourrions trouver là une occasion d'étayer l'affirmation du premier concile de Nicée, dont 2025 marquera les 1700 ans. Contre Arius et ses disciples qui niaient la divinité de Jésus, ce concile, réuni en 325, affirma la double nature de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Mais restons-en au thème de la famille et du temps. La famille, ses parents, dit le texte, puis ton père et moi, dit la mère, nous te cherchions, tourmentés. Et Jésus de répondre, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux choses de mon Père ? Quel Père ? Et quelles sont ces choses, littéralement, que les traducteurs rendent par « affaires » ou « dans la maison de mon Père » ou encore « chez mon Père » ? Voilà en tout cas de quoi aiguiser l'attention du lecteur sur la suite du récit, afin d'y déceler la relation inédite de Jésus avec ses parents, son père. Quel père ? Une réponse à cette question sera donnée au fil du récit de l'Évangile, et donc dans la croissance de Jésus quelques années plus tard, quand il est adulte, au moment de son baptême, quand le ciel s'ouvre pour que descende l'Esprit tel une colombe, selon les images bibliques, et qu'une voix céleste déclare « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Les parents biologiques de Jésus ne semblent pas présents à ce moment décisif pour Jésus. Seuls sont mentionnés des foules et le peuple qui vient au bord du Jourdain se faire baptiser par Jean. Là, Jésus est clairement nommé « fils » comme une voix venue du ciel le dira à nouveau, plus tard, lors de l'épisode de la Transfiguration, en présence de Pierre, Jacques et Jean. Mais ici, Jésus a 12 ans. Il dépend encore de ses parents, comme le note l'évangéliste, puisqu'après ce coup d'éclat, après la perte et les retrouvailles, Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Le texte précise aussi que ses parents n'ont pas compris les paroles de Jésus et que sa mère garde en elle toutes ses paroles dans son cœur, comme elle avait fait précédemment à sa naissance, quand les bergers étaient venus poussés par l'annonce des anges qui proclamaient l'avènement d'un sauveur. Alors Marie retenait tous ces événements et en cherchait le sens. Maintenant Jésus a 12 ans, il surprend sa mère qui à nouveau garde tout cela en son cœur. Tant de réflexions, de quêtes de sens, de maturation. Ce récit de Jésus à 12 ans est propre à l'évangile selon Luc. Il fait transition entre les récits d'annonce et de naissance de Jean-Baptiste puis de Jésus et leur ministère d'adulte inauguré par le baptême, puis pour Jésus par ses tentations au désert. Ici, dans cet épisode, tout est mouvement. Aller de Nazareth à Jérusalem, amorcer le chemin du retour et revenir à Jérusalem pour y chercher Jésus, puis descendre à Nazareth. Tout est mouvement, déplacement, sauf au centre du récit où Jésus est retrouvé par ses parents, assis au milieu des enseignants. Rien ne nous aura été dit de la fête, si ce n'est que quand elle est terminée, les parents prennent la route du retour. Et c'est après une journée de marche qu'ils s'aperçoivent de l'absence de Jésus et se mettent à le chercher. Chercher. Comme vous l'avez entendu, c'est un mot qui ponctue ce bref récit. Ses parents le cherchent parmi les compagnons de pèlerinage. Puis, en retournant à Jérusalem, le mot est alors dans le reproche de la mère. « Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » À quoi Jésus répond « Pourquoi me cherchiez-vous ?» Suivi d'une réponse énigmatique, Jésus est aux choses de son père. Quel père ? Après cet épisode, Joseph disparaît du récit de l'Évangile. Seul sera mentionné encore l'autre père, ce nom par lequel Jésus nous invite à invoquer dans la prière Dieu lui-même, Jésus faisant ainsi de nous ses frères et ses sœurs dans la famille de Dieu. Quant à la mère, nous percevons qu'elle aura bien du mal à comprendre qui est ce fils. Toujours en déplacement d'un lieu à l'autre, bientôt accompagnée d'une équipe de 12 qu'il a choisie et de femmes, certaines guéries de divers maux ou maladies, d'autres fidèles soutien de sa mission, et peut-être les deux à la fois, guéries et soutien de sa mission. Un jour que l'on informe Jésus que sa mère et ses frères veulent le voir, Jésus répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu » et qui la mettent en pratique. Et nous comprenons que ce que Jésus considère prioritairement comme sa famille, c'est une collectivité de pensée et d'engagement avant d'être parenté d'ordre social ou biologique. Cette famille-là, que l'on peut qualifier de naturelle, n'est pas bannie ni exclue, mais les priorités sont clairement énoncées. Pour être de la famille de Jésus, il s'agit d'adhérer à une parole et à une démarche. Il s'agit d'écouter. C'est aussi ce qu'exprime la réponse de Jésus, plus loin dans l'Évangile, à une femme qui un jour clamait publiquement « Heureuse celle qui t'a portée et allaitée » et à qui Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qu'il observe. Voilà ce qu'il en est de la famille. Mère, frères et sœurs sont ceux disposés à écouter une parole. Quant au Père, il est vecteur de l'esprit, voix qui vient des cieux, attention bienveillante vers qui nous tourner. La famille, le temps, temps de nos vies, temps du mûrissement de toutes choses, et aussi temps de la reconnaissance de qui est Jésus. Nous avons noté dans ce texte l'importance du verbe et donc de l'idée de chercher. Ses parents cherchent Jésus, le lui disent quand ils le trouvent, et Jésus les interroge sur cette recherche. « Pourquoi me cherchiez-vous ? » Par les quelques références à la mère de Jésus dans l'Évangile, comme nous l'avons évoqué, quand avec les frères de Jésus, elle veut le voir, puis quand sont dit « plus heureux qu'elle, ceux qui écoutent et observent la parole. » Chercher. Par toutes ces évocations, nous comprenons que la recherche de qui est Jésus, la recherche tout simplement de Jésus, est en effet une question pour toute la vie, en particulier pour la vie de sa mère, elle qui garde en son cœur et médite sur les événements qui la touchent de si près. Quête de qui est ce fils étonnant qui échappe non seulement à elle, mais à quiconque prétend avoir prise sur lui, jusqu'à la mort même qui n'aura pas le dernier mot. Une recherche, une quête qui peut être la nôtre et durer tout au long de notre vie. Qui est Jésus ? Quel sens donnons-nous à ses paroles, à ses actes, à ses gestes ? Sa mère garde cela en son cœur. Elle réfléchit au sens de cette naissance reconnue et glorifiée par les bergers. Plus tard, elle réfléchit au sens de cette fugue lors du pèlerinage pascal à Jérusalem. Une fugue qui s'avère être bien autre chose qu'un malaise d'adolescent et où sa mère pressent le dévoilement d'une vocation particulière qui se dessine en Jésus. Le texte nous le dit bien, qui se conclut par le constat de la croissance de Jésus en sagesse, en taille et en grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Il faut à l'évangéliste Luc et à nous lecteurs, auditeurs, méditants de ce récit, il faut tout le parcours de l'évangile et même la confrontation avec les autres évangiles et écrits bibliques. Il nous faut ce temps de lecture, de réflexion, de méditation par le cœur et l'intelligence, dans le souffle de l'esprit, pour chercher encore et toujours ce vivant qui donne et redonne vie aux éléments stagnants ou moribonds de nos existences. Chercher et trouver le vivant. C'était alors pour la fête de la Pâque que Jésus et les siens étaient montés à Jérusalem, au temple. Pâque, pour Israël, souvenir de la sortie d'Égypte, fête de la délivrance, gloire du Dieu sauveur, libérateur, et qui, par Jésus, pour tous les humains, se donne à connaître comme un Père bienveillant. Pâque, qui pour les chrétiens, par Jésus, devient délivrance de toutes emprises, jusqu'à l'emprise de l'angoisse de la mort. Dans les évangiles, la recherche de qui est Jésus se poursuit au gré de rencontres qu'il fait, des paroles qu'il proclame, des personnes qu'il relève. Jésus est aux choses, aux affaires de son père, comme il l'a annoncé à ses parents, humble juif de Nazareth. Il est aussi dans la foi, par la foi, avec nous, dans les joies et les tourments de nos vies quotidiennes. En sa personne, il associe les inspirations et aspirations célestes les plus spirituelles et les contingences de la vie sur terre. Quand il est confronté aux tentations, puis à la rencontre de personnes qui souffrent physiquement ou psychiquement, quand il est confronté aussi aux éléments déchaînés en tempête sur la mer de Galilée. Cette vie en abondance dont témoigne Jésus et qu'il partage n'est pas du goût de tous. Et il arrivera que les autorités, tant civiles que religieuses de son temps, chercheront à le faire mourir. Et même y arriveront avec le soutien du pouvoir romain. Sauf que là encore, la vie surabondante l'emportera. Et la recherche de Jésus pourra encore et toujours se poursuivre comme recherche du vivant, de celui qui inlassablement insuffle en nous un renouveau de vie sur les décombres de nos histoires. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il est ressuscité, revenu à la vie, relevé, remis debout, disent deux messagers aux femmes venues au tombeau de Jésus pour l'embaumer. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Ainsi, d'une Pâque à l'autre Pâque, Jésus se laisse chercher. Une recherche de vie, une recherche pour la vie, une recherche qui épouse le temps de nos vies, quand, comme la mère de Jésus, nous gardons en nos cœurs le rappel de ce qu'il fit pour d'autres, avec d'autres, il y a près de 2000 ans. Gardons et méditons ses paroles et ses gestes enracinés dans la longue tradition d'Israël. Une nouvelle année va s'ouvrir au calendrier de nos activités, au déroulement de nos vies. Puisse-t-elle être pour chacune et chacun l'occasion de recherches persévérantes et heureuses, en bonne compagnie, en lecture et méditation fructueuse. L'écrivaine Marie Rouanet nous invite, en son langage de poète, à être attentif à ce mystère de la foi. Quand elle écrit, il ne nous manque que d'être disponible à la grâce. On dit chercher Dieu. Mais si c'était lui qui nous cherchait et nous tendait des pièges à travers la chair admirable, si l'infini tentant de pénétrer le fini, si l'éternel, perceptible dans le mortel, cette approche du feu, simple approche, idée qui seule suffit à enflammer, si cela n'était pas rarissime, mais multiple, et offert tout au long des jours, pour peu que nous soyons dociles, il nous serait possible de soulever un coin du voile et de comprendre un peu, très peu. Fin de citation. Le Dieu qu'avec Jésus nous pouvons appeler Père bienveillant s'est fait proche de nous. Il se tient à nos côtés, sur nos chemins. Il accompagne notre recherche de sens et de vie. Amen.
Nous allons nous lever pour chanter au cantique 256 dans Louange et prière. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4.
Chers amis de l'Oratoire du Louvre, nous remercions beaucoup Madame la Pasteur, Madame Marianne Sekel, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir présidé ce culte. Merci beaucoup. Merci aussi à Aurélien Peter à l'orgue et à Madame Delin d'avoir tout organisé pour que ce temple soit beau pour ce culte. L'annonce pour cette semaine... Dimanche prochain, c'est devenu une tradition, Monsieur le pasteur Gilles Castelnau présidera le premier culte de l'année. J'espère que vous viendrez nombreux. À présent, un moment important, enfin quelques mots importants à vous dire. Il reste quelques jours pour boucler le budget que l'association cultuelle avait voté au printemps dernier. Et donc, nous avons encore besoin de quelques milliers d'euros pour boucler ce budget. Nous pensons notamment à tous et à toutes, et aux personnes qui, par exemple, payent l'impôt sur le revenu. Eh bien, jusqu'au 31 décembre, l'État vous remboursera, en enlevant de vos impôts, 66% de tous les dons que vous voudrez bien donner. Donc, nous comptons sur vous, sur cet effort collectif, nous comptons sur chacun d'entre vous. Vous pouvez faire des chèques ou des virements. Le code IBAN est sur le site internet de l'Oratoire du Louvre ou alors à la fin sur les feuilles roses ou alors sous toute autre forme de don. Merci beaucoup. Et par internet aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton don joyeux. Nous allons passer parmi vous. Merci beaucoup et bonne fin de culte.
Thank you.
Recueillons-nous à présent dans la prière. Seigneur notre Dieu, dans la reconnaissance pour ce moment partagé, pour ta parole entendue, nous te présentons notre monde. Ce monde où tu nous as donné de vivre, monde blessé, humilié, déchiré. Entends, Seigneur, le cri qui monte de notre terre vers toi, le cri de ceux qui sont sur des routes d'exil, de ceux qui sont enfermés dans la peur ou la maladie, l'isolement, ceux qui ne savent plus vers qui se tourner. Vois les pays en guerre, les larmes de ceux qui ont perdu un proche, les larmes de ceux qui sont enrôlés de force, les larmes de ceux qui sont privés de liberté d'expression. Viens en aide, ô notre Dieu, à tous ceux dont l'âme est accablée. Nous te prions que cette souffrance des femmes, des hommes, des enfants, en Ukraine, en Russie, en Israël, en Palestine, au Congo, au Soudan, comme en d'autres lieux dont nous sommes moins informés, que ces souffrances nous rendent sensibles à toutes les injustices et à l'urgence de construire un avenir viable pour toutes et tous de par le monde. Fais de nous des citoyennes et des citoyens avertis, attentifs au respect des droits humains, aux urgences climatiques et économiques. Unis-nous pour un partage concret dans la pratique d'une hospitalité généreuse pour celles et ceux qui frappent et qui frapperont à notre porte. Nous te prions pour les croyants guettés par le doute, pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Par ton esprit, aide-nous à être porteurs d'espérance, reflet de la lumière de ta grâce pour le monde. C'est ainsi que nous nous remettons entre tes mains, confiants en ton amour manifesté en Jésus-Christ, avec qui, ensemble, nous prions notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quelques paroles d'envoi et de bénédiction. Au livre du Deutéronome, reprenons ces paroles. Oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux et le Seigneur ton Dieu te bénira. Fortifiés par ces paroles, recevons la bénédiction de Dieu. Il accompagne nos chemins, il nous donne sa paix, il nous envoie. Que le Seigneur bénisse et garde chacun de nous dans son amour. Amen.